C'était une citation. Et j'ai même fait une blague à ce propos. Je me suis dit s'il ne fallait pas mettre un sparadrap. Oui, à peu près.
C'est peut-être Elmaleh Café Teshuva qui vous a cité.
Non, Elmaleh, c'est de bonne qualité. Vous savez, malgré les apparences. Mais c'est un autre problème. Et quand je parle de cette valeur que je perçois, vous savez, j'étais responsable de mouvement jeunesse pendant 15 générations de suite, si j'ose dire. Et je peux vous dire, je ne suis pas du tout le seul à percevoir cela. La jeunesse juive est de bonne qualité, mais elle est dans le désarroi de la plus grande perplexité. Et c'est vrai aussi en Israël, vous savez, cette génération des jeunes de la société de consommation, d'imitation de la société de consommation des années 70, qui a fait la guerre de Kippour et qui a sauvé Israël, c'est de la grande qualité, ne croyez pas. Et puis après, une fois qu'ils enlèvent le rosie, et vous les trouvez dans les cafés de Tel Aviv. Mais c'est ces gosses-là. Et ça me rappelle une chose qui s'est passée en France, au temps de l'occupation, avec le mouvement des éclaireurs. Le mouvement des éclaireurs, dans les années 30, c'était un mouvement petit bourgeois, de derrière les fagots, comme ça. Eh bien, c'est ces gosses-là qui, confrontés à l'événement, se sont trouvés des héros de la sixième, des héros du sauvetage de 25 000 gosses juives, des héros les 4/5 des cadres se sont fait fusiller, massacrer, torturer. Ces gosses-là, confrontés à l'événement, disent qu'ils sont. Et c'est vrai pas. Et je crois que cet état un peu désaxé de la jeunesse contemporaine, j'ai pas le droit de dire en un mot ce qu'il faudrait analyser en plusieurs heures, mais c'est le signe d'une très grande valeur. Parce que c'est un organisme qui réagit par la maladie, c'est un organisme qui ne peut pas supporter les microbes. Alors il réagit, vous comprenez? C'est-à-dire, un homme qui est capable d'être malade, c'est un homme qui est en bonne santé. Je suis un peu un paradoxe, mais c'est un peu ce que je voulais expliquer. Bien, refermons la parenthèse. Simplement, je termine en disant cela. Il faut savoir qu'il y a une très grande difficulté qui se greffe dans cette entreprise de culture judéo-française. Je vous en donne une preuve qui, pour moi, me semble à la fois significative et grave. C'est qu'il y a un jargon des écoles juives en France, et je ne pense pas simplement aux yeshivot. Yeshivot, ça va de soi, que ça jargonne. Mais il n'y a pas toi. Mais il y a un jargon dans les écoles juives qui n'a rien à voir ni avec l'hébreu ni avec le français. Et alors, on véhicule une espèce de pensée guimauve, vous comprenez ce que je veux dire, ça ne fabriquera pas un judéo-français. Alors je pense que peut-être c'est une terre de transit, et pas du tout une terre de mission. C'est peut-être une terre de transit. Bon, et alors, je finis par une blague de l'almanach Vermeaux, français. Le pluriel d'un voleur, c'est des valises, parce qu'un voleur des valises. Alors il faut vivre sur les valises. Voilà, on ferme la valise. Alors, je reviens au problème, donc, de PLP. La référence que nous donne le Gaon de Vilna, en se basant sur les références du Midrash, c'est que cet événement de Kitovim Dodech Amiyahin, eh bien, le Shir HaShirim a eu lieu au Sinaï, et il nous dit, c'est en référence aux deux premiers commandements. Le premier principe qu'il a cité, le deuxième principe qu'il a cité, si vous en souvenez, on va enchaîner, c'est qu'il y a Shivim Panim la Torah. Il y a 70 visages à la Torah et ça correspond, et c'était notre problème d'ailleurs, on n'est vraiment pas sorti du sujet, ça correspond au visage de la Torah pour telle ou telle nation considérée. Mais il dit qu'il y a deux panim, deux identités en dehors de ce compte des 70 et qui se réfèrent aux deux premiers commandements. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça au tableau.
Monique.
De Kitovim Dodech Amiyahin, Yahin, comment on fait le verset? Kitovim Dodech, je préfère ce qu'a été notre amour au Sinaï quand tu me parlais de bouche à bouche, au Yahin, c'est-à-dire à la médiation par la connaissance. Yahin a combattu la mérite 70. C'est ce Yahin qui fait allusion à la manière dont se formule la Torah à travers l'expression Shirim Panim la Torah. Okay? Et le Gaon de Vilna nous dit qu'il y a deux commandements qui ont été entendus bouche à bouche, dans le baiser de bouche à bouche, et le reste, ça passe à travers ce principe des Shivim Panim la Torah. Le souhait, c'est que toute la Torah soit au niveau de ces deux, et non pas au niveau des 70. Voilà ce qu'a dit le Gaon. C'est clair? Bon. Et là, il ajoute, c'est là que nous sommes arrivés, qu'en réalité, la correspondance entre l'unité d'Israël et la pluralité des nations et la multiplicité des nations se récapitule à un niveau de médiation qui est celui du Sanhédrin. Au Sanhédrin, il y avait 70 sages d'Israël dont la consigne était que chacun d'entre eux devait connaître bien sûr la Torah en la Shana Kodesh, mais chacun d'entre eux devait connaître une culture d'une des sociétés non juives et sa langue. De telle sorte que lorsque le Sanhédrin se réunit, c'est à travers lui l'humanité entière qui se réunit par délégation, si j'ose dire. C'est clair ? Petite parenthèse, il est possible que la légende, enfin le mythe des protocoles des sages de Sion, se soit plus ou moins greffé là-dessus. Vous connaissez la conspiration juive d'impérialisme. Si nous sommes entre nous, je dois dire qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je crois que la seule société qui s'est jurée de faire diffuser dans le monde entier son expérience de la vérité, c'est Israël. En ce sens-là, vous m'excuserez du terme, il y a un impérialisme spirituel du peuple juif colossal. Il faut le savoir que c'est, mais c'est spirituel.
De diffuser ou de faire diffuser ?
De diffuser, par lui. Alors on va arriver à l'obstacle des diffuseurs délégués. Mais vous connaissez la prière par laquelle on cloche tous les offices. Allez-nous les chavers.
C'est fait dans quelle vue ?
Je crois, je veux dire, pas Barour, je crois voir la vérité, mais mes prophètes m'ont dit que c'est le vrai Dieu qui m'a parlé, et je ne dis pas aux autres, et je vais garder ça pour moi. Et j'ai la vérité, et je vais laisser quelqu'un d'autre dehors, c'est pas possible. C'est ça là, la base de l'impérialisme spirituel.
C'est bon, les intentions sont bonnes.
Barour, nous sommes chargés de mission, sanctifiez-moi ce monde, nous a dit le Créateur. Vous voyez alors ce qu'il veut dire, okay. Et on s'est fait brûler pour ça, on s'est fait crucifier pour ça, on s'est fait tuer pour ça, on s'est fait juiviser pour ça. Et il y a quelque chose d'inconscient qui reflète dans l'inconscient, mais cette espèce de vouloir continuer à être juif, bien qu'on sache que c'est une histoire de fou, hein, quel homme accepterait cette condition ? C'est pourquoi à chaque fois qu'un non-juif vient nous demander « Monsieur, je peux aller avec vous ?» Eh bien on lui fait une grande fête et on l'appelle Abraham, vous comprenez ce que je veux dire ? Il est fou, mais ça fait rien. Ça il faut le dire clairement. Il y a effectivement une conspiration de Sion. Enfin, j'ai pas dit sioniste, mais enfin, une conspiration du peuple juif. Quoi ? Eh bien, sanctifier le monde, faire diffuser dans l'espace et le temps cette révélation aux Hébreux. Et la preuve que c'est ça qui s'est passé, c'est le christianisme d'un côté, l'islam de l'autre, et des tas d'humanisme, socialisme et tout ce que vous voudrez en isme, qui sont sortis du peuple juif. On a échoué. Parce que qu'est-ce qu'on a pu faire ? Que le christianisme, que l'islam, que l'humanisme. On a échoué, mais c'était ça le projet. Enfin, on a échoué. C'est grosso modo. Il y a eu des réussites ponctuelles. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le christianisme comme tel, qui est bolette en Occident, c'est la preuve que le peuple juif est impérialiste. Spirituellement, hein.
Est-ce qu'on comprend que les conversions soient si difficiles ?
Elles ne sont pas difficiles, elles doivent être authentiques. C'est l'authenticité qui est difficile, ce n'est pas la conversion. Vous comprenez ?
C'est une
utopie
de vouloir...
Ma ? Donc, vous savez, les tribunaux rabbiniques, je vous dis des secrets familiaux, les tribunaux rabbiniques ont toutes les consignes de rendre la chose impossible. Pourquoi ? Pour être sûr que c'est vrai. Mais dès que c'est vrai, on fait une fête. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on a voulu le savoir à l'avance, donc il faut y passer.
Hein. Étant donné que d'après notre expérience, on n'a pas réussi à transmettre toute notre sagesse, toute notre civilisation aux autres pays, et malgré tout, on continue. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une utopie ?
Très bien, tu as entendu. Hein. Oui. Mais je crois qu'à un certain moment, il faut faire un bilan. Et de se rendre compte que si on continue, alors qu'on a fait le bilan que c'est impossible, ça devient une utopie dangereuse. Bon, mais de ça, on parlera avec l'autre verset, déjà tout à l'heure, j'espère, et demain ou après-demain. Peut-être que, je voulais simplement vous signaler cela. Quand j'ai parlé l'autre soir dans l'étude de la solitude de Jacob, vous vous rappelez ? Tout le monde était là, grosso modo ? Eh bien, j'ai un peu mis en question, si vous voulez, dans un morceau de l'analyse, le fait que la Torah, avec beaucoup d'humour, nous montre quel était cet enjeu du péril de du chemin solitaire de Jacob chez le Goïm. Et encore, regardez l'humour de la réalité. Qui est Laban par rapport à Jacob ? C'est pas n'importe quel Goï, c'est son oncle qui est son beau-père. Et pourtant, c'est là, dans cette équation-là, que la relation judéo-goy la plus terrible a pu se passer. Vous vous rappelez ce qu'on dit à la Gada de Pessah? Laban était plus terrible que le pharaon. Parce que le pharaon ne voulait tuer que les garçons, les filles, il voulait se les approprier. Il avait bon goût. Mais il voulait la matrice juive, mais hébraïque. Alors que Laban, Bikesh, la Akor et Akol, que Laban, lui, voulait tout annuler. Et ce n'est qu'à la fin de son exil que Jacob le découvre, et encore parce que ses femmes, qui étaient les filles de Laban, lui ont dit, tu sais, Jacob, mon papa qui est ton beau-père, mon père qui est ton oncle, ce goy-là, Laban, je me rappelle de M. Ardin qui nous disait, ce blanc-là, il n'était pas si blanc que ça. C'est une affaire que nous avons avec la civilisation blanche, Laban, elle est blanche. Eh bien... Laban à Arami, à Ramaï, pas si blanc que ça, celui-là, et les noirs de ça. La consigne qu'il avait de sa mère, Rebecca, et tu resteras là-bas, Yamim Mahadim, tu resteras là-bas quelques jours. Jusqu'à ce que ça réussisse. Qu'est-ce qu'a fait Jacob ? Il s'est installé comme spécialiste de l'amélioration de la race ovine. Vous vous rappelez ? Parce que finalement, qu'est-ce que nous raconte le texte ? Pendant 20 ans, il s'est occupé de l'amélioration des troupeaux de la vanne. Et il a inventé les merguez.
Les merguez blancs ?
On m'a raconté. Je veux dire pourquoi je dis ça. On m'a parlé d'un perguez qui sévit à Belleville. Je me suis dit, à savoir ce que sa mère Gaise a dû faire. Mais ça, c'est le péril. Alors, en fait, je ne réponds pas à votre question. C'est qu'il y avait une mission à accomplir. Et bien, finalement, Jacob a aimé son exil. Qu'est-ce qu'il voulait, Rachel ? Il avait le droit. Prends ton coursier, enlève-moi la belle Rachel et rentre. Mais non, il s'installe chez le beau-père et puis il améliore les shish kebab de là-bas. Bon, alors j'ironise un peu. Sira ? Pardon ?
Il a emporté avec lui parce qu'il est
trop fort. Mais je veux dire, voilà. Il y a une dialectique, il y a une mission accomplie. Mais c'est pas évident, lisez le texte, moi, comment il parle. Rebecca lui dit, tu resteras là-bas, Yami Mahadim, quelques jours. Et lorsqu'il revient, alors le texte, nous avons étudié ça une autre année, mais je vais vous citer la page. C'est dans Sanhédrin, dans le 11e chapitre de Sanhédrin. Et lorsque il revient, alors le verset dit, Vaïra Yaakov Meod Vaïtserlo. Il a eu très peur. Et pourtant, il avait la promesse d'une protection. Ushmarticha Bechol Hashem Telech. Avant qu'il parte en chemin, dangereux, solitaire, Dieu lui dit, n'aie pas peur, je te protège. Quand il revient, il apprend que son frère Esaü l'attend avec 400 hommes de guerre. Vous vous rappelez de cela ? Et le verset dit, il a eu très peur. Je ne vous cite pas tous les commentaires importants que nous donne le Midrash à ce sujet. Il a eu peur d'avoir à tuer, très peur, ou l'inverse, il a eu peur d'avoir à être tué, très peur d'avoir à tuer. Nous avons parlé de cela dans d'autres occasions. La Gemara pose la question, et pourquoi il a eu peur ? Il avait une protection. La Gemara dit, Shema Igrom Achet, de peur que la faute n'enlève son mérite et le met en échec, la protection de Providence. Quelle faute ? Le texte est très clair là-bas, la faute d'être resté trop longtemps dehors. Le texte est très clair, chet. Est-ce clair ? Je dis souvent, je réponds à cette question de façon très précise. Il y a à faire, le temps qu'il y a à faire, et le temps qu'il y a à faire, et encore c'est un mystère, qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'exil ? Certains d'entre vous ont étudié, je suppose, ici ou ailleurs, quel est le sens de la fonction de l'exil ? Ne croyez pas que c'est un problème simple. Ça vaut la peine qu'on l'étudie pour lui-même. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, mais nous avons une mission. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et quoi ? Dans les minutes, je termine. Nous avons une mission chez les Goïs. Bon, ce que je disais, Jacob s'occupe des affaires du monde. Mais quoi ? De quoi il s'agit ? Une fois, j'ai eu une discussion avec ce même père Cazel dont je vous ai parlé hier. Eh bien, aujourd'hui, énormément de Juifs disent, mais sans savoir de quoi ils parlent, nous avons une mission, de quoi ? Leur enseigner la Bible ? Vous croyez vraiment que les Juifs enseignent la Bible aux Goyim ? C'est les curés qui s'en occupent. C'était la... et donc, c'est pas la Bible. Mais c'était la discussion que j'avais avec le père Cazel. De quoi parlent tous les grands professeurs, tous les grands enseignants des universités, par exemple en France, d'origine juive ou juive ? Ils parlent de tout sauf du judaïsme. Je crois, personnellement, qu'à travers ce dont ils parlent, vous avez dit un peu tout à l'heure, c'est quand même le judaïsme qui passe. Oui, mais caricaturé, défiguré, caricaturisé... de défigurer, comme on dit, déformer, voilà, puisque ça fait adultérer, gauchis. J'ai pas dit gauchisant, mais un peu dans ce sens. Ça se fait quand même, mais ça se fait quand même dans une transmission catastrophique, chaotique. Ça marche pas. Bien. Et pas du tout à visage découvert. Je vous parle au nom des prophètes hébreux. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quand Joseph en Égypte se montre comme hébreu, il est honoré. Quand il se déguise en égyptien, allez, dans la fosse. C'est un autre problème. Je ne sais pas. Personnellement, je pense que ça passe quand même. Mais ça passe au forceps, même si j'ose dire. Alors, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est ceci. Tant que c'est le temps de cette mission, et encore une fois, ce n'est pas clair qu'est-ce que nous avons à faire. Mais tant que c'est le temps de cette mission, il y a la protection. C'est difficile. C'est périlleux, rappelez-vous l'analyse de l'autre soir. C'est difficile, c'est périlleux, c'est héroïque. Au bout, il y a l'examen de passage, tu t'appelles Israël. Parce que tu as eu le courage de passer par la Golgotha. C'est clair. Je vous rappelle le Maharal. Pourquoi, alors que la prophétie de la Golgotha est donnée à Abraham, c'est pas déjà Abraham qui commence? Et pourquoi il faut attendre Jacob, okay? Parce que c'est à Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui est promise l'aide d'Israël. Si Abraham était descendu, alors Ishmaël aurait aussi connu la Galoute. Et ça aurait connu la Galoute. Mais comme Eretz Israël, ce n'est pas pour eux, il faut attendre que Jacob soit là pour que la Galoute commence, parce que seule la descendance d'Abraham qui connaît la Galoute a le droit à Eretz Israël. Je pense que c'est très clair. Hein, c'est important de commenter. Eh bien, pourquoi je vous dis cela? Je le répète, si je ne l'ai jamais dit un jour. Ça m'a beaucoup frappé. Les descendants d'Ishmaël ont beaucoup voyagé, mais partout en conquérant, ils n'ont jamais connu la Galoute. Les descendants de l'islam. L'islam a voyagé partout, mais en conquérant. Et où, quand les musulmans ont été en exil? Il y a une seule communauté musulmane qui est en exil, c'est en Israël, un exil doré. Mais c'est les seuls avec qui on va peut-être commencer à parler, parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est l'exil. J'ai des juifs. Vous comprenez le problème? Attendez. Tout ça est très important à voir. Mais de la même manière que les chrétiens, Ésaü. Eh bien, le christianisme a voyagé partout, mais en conquérant toujours. Ils n'ont jamais su qu'est-ce que ça veut dire être en galoute. Seuls les juifs ont accepté sur eux la mission de la galoute. Alors c'est à eux, Eretz Israël. Les juifs de l'exil, c'est à eux, Eretz Israël. Alors quel est notre problème? C'est que tant que c'est le temps normal de la galoute, il y a protection. C'est très difficile, on est persécuté, mais pas plus. Mais là, quand arrive le moment où peut-être c'est plus le temps, alors c'est plus que la persécution. C'est la néantisation, il n'y a plus de protection. C'était ça la peur de Jacob. Il a eu peur, chez Maïglomar. Peut-être j'ai tardé. Et il le dit lui-même. Comment commence son discours à Ésaü? Rim laban garti va ehar arata. Alors j'ai tardé. Il dit j'ai tardé. Tardé, ça veut dire tardé. Et pourquoi il a tardé? Parce qu'il aimait les brochettes de Laban. Voilà. L'appel et l'attente. Nicole Dodi Bofek. La voix de mon bien-aimé a frappé à la porte et je l'ai laissé frapper à la porte. Il dit, reviens, reviens, je t'attends. Le monde est vide quand tu es dehors. Alors reviens. La Shrina est en exil, c'est mauvais pour le monde entier. Fais vite. Voilà la consigne, vous comprenez? Et Jacob lui-même a eu peur, en revenant en retard, d'être puni pour ça. Alors il a eu très peur. Et la Gemara que je vous cite nous dit, et c'était comme ça au temps du retour de Babel. C'était comme ça au temps du retour de Babel. Garamahet, ils ne sont pas revenus suffisamment nombreux quand c'était le temps du retour, alors cette force du retard a joué, et nous vivons dans les temps contemporains cette même angoisse. Si nous avons laissé passer le temps, alors le chet fait qu'il n'y a plus cette protection sur l'exil. Vous rappelez à qui précisément elle est accrochée, le mérite de cette protection? À Rachel. Pourquoi Rachel est enterrée en dehors de la caverne de Marpella pour prier, pour protéger les Juifs de l'exil. Ok? Je ne sais pas si je vous ai dit comme ça, maintenant Bethléem est en Israël. Et alors, il n'y a plus de protection sur les Juifs de l'exil. Bethléem est en Israël. Alors, je vais vous donner un conseil. Faites des pétitions à l'ONU pour qu'on rende les territoires, que Bethléem soit en Gola pour que vous soyez protégés. Alors, je referme la parenthèse. Actuellement, c'est très périlleux d'être en exil si le temps est arrivé. Il n'y a plus de chemin. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr qu'il y a une fonction très importante de la galoute. Toute l'histoire d'Israël dépend de cela. Si on a réussi la galoute, on réussira le retour. Mais
La grande inconnue, c'est ça. Est-ce que le rendez-vous n'a pas été? Je vous citerai, si vous pouvez lire, c'est paru en anglais, en hébreu, peut-être commencer à traduire en français. Vous avez entendu parler certainement du Rav Soloveitchik. Je crois que ça a été traduit en français. Non, il y a un autre péré qui s'appelle Kolzoli Dotfek.
Je crois que ça a été traduit.
C'est traduit. Ah, c'est pas traduit. Alors, le Rav Soloveitchik, je ne fais pas partie de sa paroisse, mais même pas du tout même, mais il dit quelque chose de cet ordre. Peut-être que la Providence a frappé à la porte. C'est le moment, il nous a fait signe. Et on a laissé passer le temps. Un peu comme dit la Shulamit, que le bien-aimé est venu frapper. Mais je suis déshabillé, je suis au lit, il faut que je m'habille, il faut que je mette que je salisse la plante des pieds pour aller t'ouvrir. Et entre-temps, le temps a passé, elle est sortie, il était parti. Alors elle se balade dans les rues de Jérusalem, on dit, mais oui. Et il est parti. Et il était venu, mais tu ne lui as pas ouvert. Il est parti. Vous voyez à peu près ce qui se passe. C'est fictif, comme un clin d'œil. Mais « c'est adar » dit la halakha. Le Mashiach viendra, « c'est adar » comme on dit ça en français. Subitement, je me tourne, il est là. Et puis, je n'ai pas le temps de me tourner, alors il n'est plus là. Vous voyez ce qui se passe avant que ce soit le temps définitif. Alors peut-être, c'est le Rav Soloveitchik qui parle. Et lui, il habite l'Amérique. Il dit peut-être on l'a laissé passer.
C'était Boston.
Ça s'est peut-être passé plusieurs fois aussi.
Ah oui, ça s'est passé à tous les moments possibles de rencontre, mais selon les kabbalistes contemporains, en tout cas l'école à laquelle je me rattache, nous sommes arrivés au dernier rendez-vous, Tachana Sofi. Ce qu'on appelle le Ketsa Acharon, le Ketsa Mekoulé.
Pas celui-là,
non, c'est jamais trop tard, il y a toujours un dernier autobus. Tant qu'il y a un dernier autobus. On avait le dernier métro.
Mais puisqu'on parle, je crois que seulement un cinquième des juifs peuvent être en Israël, reviendront en Israël. Donc il y aura toujours 4 cinquièmes.
Oh, ça sera le 10e qui resterait.
Écoutez, ça je connais, mais écoutez.
Écoutez,
quand il y a une loi statistique qui joue, rien n'oblige personne à se mettre de ce côté ou de l'autre de la statistique.
Oui, d'accord.
Avec chaque individu, on est libre. Je vous rappelle comment j'avais appris cela à propos d'un verset des prophètes, dans le Talmud Torah, il y a longtemps. Pas si longtemps que ça, quand même, mais le verset disait Velo idah mimenu nidah. Et aucun d'entre eux ne sera repoussé. Velo idah mimenu nidah. Et ça veut dire qu'ils reviendront tous. Je me rappelle avoir posé la question à mon rabbin, comment ils reviendront tous, c'est vrai. Il m'a répondu ils reviendront jusqu'au dernier qui reviendra. C'est ça, tous.
Bien. Alors, comme une ambiguïté qui se trouve déjà dans le texte, tout simplement, parce que j'ai dit, Jacob devait rester quelques jours la consigne de sa mère. Or, le texte dit, chapitre 29, verset 20, et Jacob est resté, a servi 7 ans, et ces 7 années ont été que.
Et voilà.
Parce qu'il a aimé Rachel.
Et voilà.
Alors je crois qu'il faut quand même.
Eh bien, exactement. Qu'est-ce que je disais? Il a aimé Rachel.
Oui, justement. Alors, c'est tout le problème entre.
T'as des minutes, on s'arrange les deux.
Parce qu'il aimait toujours et comme quelques jours.
Et voilà. Et regardez, mais tu as la réponse à ta question. Regardez ce que dit le texte. Et voilà, il s'arrange pour faire que 2000 ans, c'est quelques jours. Parce qu'il aime Rachel. Et encore maintenant, on s'est habitué. Rachel, c'est notre mère, vous savez. C'est pas, on s'est habitué, Rachel, la juive. Mais là, c'était Rachel, la libanaise. Eh bien, c'est sa prédestinée, c'est sa femme, c'est la mère d'Israël. Hachem, Banouch, Tehemet Israël, Rachel Véléa. Rive de Ruth, mais Rachel avant Léa, qui ont construit la maison d'Israël. Mais c'est ça que je disais. Je parle un peu légèrement. S'il y avait ici mon rabbin, il me dit, écoute, tu ne peux pas parler autrement. Hein. Mais je parle un peu légèrement. Mais, vous comprenez ce que je veux dire, pour aller vite. Et faire passer des choses qu'on ne peut pas faire passer avec un langage trop piétiste. Une minute. Mais c'est ceci. Ben, il aime Rachel, et pour sauver le monde, il faut que Rachel enfante les tribus d'Israël. Et donc, puisqu'il y a Rachel, il y aura aussi Léa et Bilha et Zilpa. Mais, eh bien, fais comme les Allemands et les Sabines, là, je ne sais pas quoi. Tu as besoin de Rachel, qu'est-ce que tu vas rester chez ce Aramaï de là-bas? Tu te prends ta Rachel sur ton coursier et tu rentres à Sion. Eh bien, non, il a aimé le paysage de là-bas, il a aimé la France, il a aimé l'Angleterre, il a aimé Auschwitz, enfin, la Pologne. C'est arrivé. là, c'était pas un lapsus, c'est sorti comme ça. Regardez, c'est exactement ça le problème. Il a dit « j'ai tardé ». Et alors, regardez l'humour du Midrash que tu as cité, l'humour du verset que tu as cité. Et il a tellement aimé Rachel que ce longtemps, c'était à ses yeux, comme quelque chose. Ben, c'est bien de ça qu'on parle. Je pense que c'est bien. Voilà, j'ai une angoisse, une inquiétude rétrospective, parce que nous voyons objectivement ces difficultés de la vie juive actuellement. Et il y a eu un temps où la vie juive de la Galoute était d'une cohérence, d'une authenticité pure, transparente. C'était une vie normale dans la normalité. Aujourd'hui, ça devient difficile. Je dis que ça, difficile. D'où vient cette difficulté? C'est un signe de l'histoire elle-même que c'est difficile. Et vous croyez vraiment que... Je crois que c'est cette dialectique-là. L'exil est une vie héroïque. Mais il y a des limites à l'héroïsme. Finalement, ça devient super-héroïque. Et je ne crois pas que, par intention, le Créateur destine à ses créatures à une vie d'enfer. On veut bien aller en exil, pourquoi pas? Mais pourquoi l'enfer, après tout, okay? Vous comprenez? Actuellement, ça devient l'enfer.
Il ressemble peut-être pas encore.
Je peux vous dire que je parle un peu d'expérience. J'ai vécu cette vie de l'exil. Et en France. Je vis la vie en Israël. La vie en Israël a des difficultés inouïes. Mais c'est des difficultés normales, humaines. Normales, je ne veux pas dire naturelles, saines, etc. Mais vous comprenez l'idée. C'est des difficultés pratiques. Ça ne veut pas dire qu'un Israélien n'est pas angoissé s'il a des angoisses, mais il a des angoisses qui le concernent. Pas qui concernent la destinée de l'homme, la destinée du juif, ça s'est normalisé. Ce n'est pas encore l'authenticité du temps du fils de David que l'on attend, mais ça s'est normalisé. Je ne sais pas comment essayer d'expliquer ça, je vais donner un témoignage, disons. Mais ici, je vais vous dire, j'habitais le 9e. Et alors le 9e, en 15 années, c'est peuplé de restaurants cachers d'une façon inouïe. Mais c'est formidable, c'est inquiétant. Alors il y a la cache-coute une étoile, cache-coute deux étoiles, cache-coute trois étoiles. Alors je veux dire ce que j'ai vu à la devanture d'un nouveau restaurant qui s'appelle Gan Eden. Et vous, on nous a mis Gan Eden à la rue Ambroise Thomas. Publicité. Il y a marqué comme ça. Et nous servons tous les vins cachers, garantis par différentes autorités rabbiniques. Le client fera son choix. De fou, ça. Alors, ou un vin est caché ou il n'est pas caché, alors on commence à charrier. Ça devient un artificiel épouvantable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que la vie juive devient artificielle. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est suffisamment clair. On n'a jamais connu cette histoire-là dans le longtemps de l'exil. Y a des niveaux de piété. Il y a des niveaux de piété individuelle. Il y a des niveaux de chassidoute, je vais vous dire dans le sens étymologique. Il y a des niveaux de scrupules. Mais il n'y a pas ces catégories confessionnelles de secte, de paroisse, d'allégeance à une Kehila. Là-dedans, l'idée du clan Israël, de la nation juive, du peuple juif, est complètement évanouie. On est devenu autre chose. On est en train de devenir autre chose. Alors, pour faire que les enfants continuent, vous voyez, on s'est mis dans des conditions exiliques impossibles. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je me rappelle d'autres voyages dans d'autres pays. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Et Dieu sait que je ne vous ai pas préparé de parler de ça, je ne sais pas. Mais c'est quand même le sujet du verset suivant. C'est ceci. Je ne crois pas que le judaïsme n'ait jamais été une religion pour Français. Je crois que le judaïsme, c'est une religion pour Juifs. Et que, je pense que c'est clair, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et que les Juifs ont toujours su qu'ils étaient une minorité nationale camouflée en minorité religieuse, en ghetto religieux. Okay? Et puis il y avait une stratégie cohérente et un accord très lucide des deux côtés entre la patrie d'adoption, dans ce cas la France, et ce n'était pas n'importe quoi, la France de la Révolution française, et puis le ghetto juif. Et puis actuellement, on est en train de se fabriquer une espèce de confession religieuse. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, pour Français.
Des palaces aussi,
c'est quelque chose que je n'arrive pas à intégrer. Alors vous allez me dire, bon, je n'étais pas Français, mais bien sûr que c'est vrai, puis je suis Algérien d'origine. Mais on se recolle sur l'analyse de tout à l'heure. C'est ça le fond du problème. Peut-être que, de notre temps, la galoute est devenue anormale. Mais elle a eu son temps de normalité. Voilà ma manière de poser la question. Donc, pas de réponse. Je pose la question. Okay? C'est de cette manière qu'il faut aborder la question. Maïmonide a beaucoup parlé de ça dans les chemins de la pratique. En disant ceci, très rapidement, il discute du problème de la liberté, la responsabilité individuelle, et il arrive vers la fin du 8e chapitre des chemins de la pratique, des 8 chapitres d'introduction au Pirkei Avot, en disant ceci. Pour fonder la notion de responsabilité, nous en avons parlé dans un séminaire en 73, il me semble. Pour fonder la notion de responsabilité, eh bien, il faut argumenter contre deux positions du problème qui nient la responsabilité parce qu'elles nient la liberté de l'homme. C'est d'une part la position déterministe, aujourd'hui c'est la position scientiste qui, au nom du déterminisme des phénomènes, nie la liberté humaine. C'est un problème pour lui-même. Il commence à argumenter avec cette thèse. Et ensuite, il argumente avec une thèse théologique qu'il situe dans le contexte culturel de l'islam, puisqu'il se trouvait dans ce contexte-là, qu'au nom de la toute-puissance de Dieu, on nie la liberté humaine. C'est une position religieuse, okay, théologique, que l'on trouve surtout apparemment dans l'islam. Elle existait aussi dans certaines tendances chrétiennes, en particulier Port-Royal, vous rappelez la discussion entre Pascal et les jésuites. Eh bien, il dit ceci. Finalement, le seul argument qui mérite d'être discuté, c'est la position religieuse qui se baserait sur la Bible elle-même, en montrant que Dieu lui-même annonce dans tel ou tel verset que tel ou tel homme, telle ou telle catégorie d'hommes agira comme ça et en sera puni. C'est lui-même qui le décide et il en décide la punition. Par exemple, les Égyptiens. Que les Égyptiens seront punis parce qu'ils auront persécuté les Hébreux. Or, il est annoncé par ce même Dieu, dans cette même parole, que les Hébreux ont à être persécutés par les Égyptiens. Vous voyez à peu près la difficulté du problème. Maïmonide répond comme ça. Est-ce que c'est clair, la manière de poser le problème? Bon. Et où est la responsabilité du Pharaon, puisque c'est Dieu qui a endurci son cœur, vous rappelez de ça? Il pose le problème de façon très vaste. Le verset dit, Yadoar Tedar Kigiri Zaracha Veretolaem Alba Meotchana. Savoir, tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, il se dévoile, c'est en Égypte, 400 ans. Va avadum ve'inuotam Alba Meotchana, va halichen ve'gam et ago yashe avododan anochi, va halichen et tsilvi chouchgado. Et ils les humilieront, ils les persécuteront, et après je les jugerai, je les punirai. Et alors Memri dit, voilà le seul argument sérieux qui peut discuter. C'est Dieu qui a décidé que ça se passe comme ça, et après il punit. Alors, la réponse de Maïmonide est extraordinaire. Et Maïmonide, on n'est encore pas arrivé à l'écarsoula, comme on dit, à ses chevilles. Okay, il dit comme ça, la Bible dévoile un conditionnement naturel. Un conditionnement. Quand une minorité s'entête dans la différence, je parle en termes contemporains, mais c'est l'analyse de Maïmonide. Quand une minorité s'entête à la différence dans une culture qui n'est pas la leur, alors inévitablement elle secrète la xénophobie. Mais il y a des limites. Pourquoi ils ont été punis, les Égyptiens? Parce qu'ils ont exagéré, explique Maïmon. Il y a une limite de la persécution. Et les Juifs en exil se sont toujours attendus à faire le gros dos. On est en exil, bon, il y a des coups. Mais plus que des coups, non. Voilà ce que dit le texte. S'ils exagèrent, est-ce que j'ai été suffisamment clair? Je ne veux pas du tout justifier la xénophobie, et donc l'antisémitisme et la persécution. Ce n'est pas ça que fait Maïmonide. Maïmonide dit ceci. À l'échelle individuelle, chaque Égyptien pouvait être un homme normal. Moi, je dirais un saint. Parce que pour pouvoir être un homme normal quand on est égyptien, enfin je veux dire de l'heureux, mais Maïmonide dit, chaque égyptien pouvait être bon. Il pouvait être bon pour l'étranger. Bien qu'il y ait un mécanisme naturel, qu'une société secrète des anticorps de xénophobie, et c'est ça que Dieu dit, Abraham, tu sais, ta descendance, elle ne peut pas y couper. C'est comme ça que le monde fonctionne. Okay? Est-ce que c'est clair? Mais Maïmonide dit chaque Égyptien pouvait être bon et ne pas persécuter l'étranger. Je vous dirai après l'objection sur Maïmonide. Mais d'abord, l'analyse de Maïmonide. Alors Maïmonide nous avertit. Il y a des limites à la difficulté de l'exil. Quand ces limites sont dépassées, signal d'alarme. Il y a quelque chose qui tourne par an. Peut-être le temps est passé. Vous comprenez? Il y a une protection. Vous serez persécuté, pas plus. Regardez l'humour du bon Dieu. Vous serez persécuté, pas plus. Je vous promets, pas plus. Chez nous, Ishtarbedou et Israël, Yotermidaï, pas trop. Alors, si le pas trop est passé, c'est Maïmonide qui parle. Ce qu'il y avait, c'est que la sonnette d'alarme a été tirée, il fallait décrocher. Le frère est devenu Caïn. Okay? Vous voyez quel est le problème. Alors, c'est un peu de cela que je parle. Objection contre Maïmonide, si vous voulez, sur l'analyse de Maïmonide, c'est que Maïmonide nous parle en utopiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les goyim en Égypte ou ailleurs deviennent des saints, subitement. Est-ce que c'est clair? Ma concierge est antisémite. C'est pas parce qu'elle est concierge, c'est parce que je suis pas chez moi. Et il faut ouvrir les yeux. Okay? Vous voyez le problème? Et que non seulement je vais vous raconter une histoire abominable que je viens d'entendre il y a quelque temps, vraiment une de ces histoires juives macabres qui explique les causes profondes du nazisme. Ça se passe en Allemagne, une discussion entre un juif allemand et un allemand. Et vous voyez que le mot allemand n'a pas le même sens dans les deux cas. Juif allemand, c'est un adjectif, allemand, allemand, c'est un substantif. Alors l'allemand demande à l'adjectif, demande au juif allemand, mais toi, qu'est-ce que tu es? Et l'autre dit, je suis allemand. Il dit, non, toi tu es juif. Non, je suis allemand. Il dit, alors et moi, qu'est-ce que je dis? Toi tu es goy. Alors quand ça en arrive là, alors comment Maïmonide va nous expliquer le sang-froid des Égyptiens? Vous comprenez? Et alors, ça veut dire que, ça y est, c'est clair, l'allemand c'est le juif, et alors le pauvre l'allemand, lui c'est... Bon. Alors il faut bien faire attention à cela. On est prévenu, on va, Jacob en exil, c'est Dieu. Mais voilà, et le récit est impitoyable pour Jacob. Il est devenu Israël, Jacob Schmuckel, mais le récit est impitoyable. Il a fallu que ses femmes l'avertissent. Tu sais, l'antisémitisme, ça commence. On se sauve. Les femmes ont dit ça. Et lui a dit, vous avez peut-être raison, allez ensemble.
C'est-à-dire qu'il reste
une
solution à l'allemand pour venir à l'enfant de Dieu.
Pardon? Oui, c'est ça. C'est juste, non, mais t'as raison. C'est le moment. C'est un autre problème, comme dirait le. Oui.
Je me semble que les enfants pour la première question qu'ils viennent de poser, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas entendu quelque chose d'important pour savoir le moyen. Alors, vous avez l'histoire de Jacob.
Est-ce qu'il a entendu un lapin?
Il prend Rachel sur son cheval et puis il entend que c'est tout. On ne peut pas emporter sur un cheval, enfin, si le cheval est dernier sur lequel, si on est Attila, il n'y a aucun problème. Mais si on est juif, point lieu. Or, la question que pose
Trigano, le lieu.
C'est aussi la question du lieu, mais souvent pas. Et cette question que
vous avez posée
par la dame, quand elle a dit que Jacob a quand même rapporté des choses de son exil, il a bien appris quelque chose, et par monsieur quand il disait que son frère travaillait au port d'Ashdod. Ça veut dire que lui, de son exil, il emporte, enfin, il a des études, je ne sais pas quoi, une profession, je ne sais pas. Alors, je crois que l'explication de cette étude est à mettre en rapport avec les premiers versets de Mishpatim. Elle sera de Mishpatim, la du statut de évêque ivré.
Alors voilà le problème. Très bien, je vais partir par la fin. Ça veut dire, ou bien on profite des occurrences et on se débrouille. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est des éléments du problème intérieur, problème ponctuel. Le problème dans sa globalité reste. Okay? Ça veut dire, rien de ce qui a été dit ponctuellement ne touche aux données du problème, c'est intérieur au problème. Okay? C'est, disons, subjectif. Mais, ou bien, et la Gemara Sanhedrin y a fait allusion, ou bien on peut arriver à profiter des occurrences où c'est le plus vite possible, bimhera veyamenu, que les, un petit nombre de jours, ce n'est qu'un petit nombre de jours. Ou bien il va falloir attendre que le déroulement de l'horloge se fasse jusqu'à la fin de la loi d'État. Okay? Qu'est-ce que dit la Sidra Mishpatim? Quelqu'un s'est mis dans le cas d'avoir à être évêque ivri. Okay? C'est-à-dire d'avoir à être au service du Créateur chez l'Egoïm. C'est ça, être esclave et breton. Okay.
Bon.
Oui, d'accord. Bon, mais je prends la...
Parce que c'est la question du portage.
D'accord, je prends le parallèle. Non. La question du portage.
La
question du portage est autre. Et je vais tout à fait dans son sens. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être professeur d'université à Montréal que docker à Ashdod? C'est ça l'histoire.
C'est ça.
Ou à Paris, d'ailleurs. Bon, enfin, c'est surtout à Montréal que la question se pose là.
Oui.
Et alors ah, ça sent encore un autre. Parce que je vais vous dire.
Parce que c'est alors, la République dans mon pays.
Alors, ne pas.
Oui.
Alors, ne
pas. Vous ne pas pour les acheter.
Ne pas. Non. Écoutez. C'est ça. Mélangez pas les problèmes. Écoutez, mélangez pas les problèmes. Israël n'est pas un pays ashkénaz, c'est un pays juif. Dans lequel il y a un problème entre les occidentaux, entre guillemets, et les. Orientaux, entre guillemets. Enfin, laissez-moi finir de parler. Ces occidentaux ne sont pas forcément occidentaux, ils sont parfois plus orientaux. Et ces orientaux ne sont pas forcément orientaux, ils sont parfois plus occidentaux. Tout ça est entre guillemets. Mais c'est un problème intérieur dans la maison. Le fond du problème, c'est la coïncidence de classe politique entre les uns et les autres. C'est pas un problème ashkénaz, c'est pas grave. D'abord, c'est un problème, en langage marxiste, de lutte de classe. C'est autre chose. Eh bien, la coïncidence est à expliquer, et peut-être le mot est faux, mais nous ne nous trompons pas trop. Non, alors ceci dit, esclave chez les Ashkenazim ne parle pas d'Ashdod, parle de Haïfa, parce que Dafka, les patrons du port d'Ashdod, c'est les Sfaradim. C'est autre chose. Mais c'est une autre histoire. Mais le problème reste, il est réel, il est grave, et le moment venu, j'aurai à dire des choses qui pourront étonner les uns et les autres. Vous savez, je fais partie d'un certain nombre de commissions d'éducation nationale. Il arrive, bon, j'ai fini par m'habituer, malèche, on me prend pour un Ashkenaz. C'est ça, arrive. Et alors, ça me vient de mon ancêtre polonais. Eh bien, j'entends des choses que si un jour je vous les raconte, ça me ferait dresser les cheveux sur la tête. Mais donc, je suis au courant du problème, il est grave. Mais c'est tout à fait autre chose. La question est comme Eva l'a posée. C'est-à-dire que Israël est en service au nom du Créateur chez dans l'humanité, les affaires du monde, donc l'exil. Et c'est en dogma, en illustration, que tu as pris Mishpatim, que c'est la Eved chez un juif. C'est clair. Bon. Et alors, le problème de Saint-Denis nous dit ceci, il y a des rendez-vous possibles. On a parlé tout à l'heure un peu de ça. Okay, il y a des rendez-vous possibles. En mérite, c'est une occurrence, Isdamnout, occasion de pouvoir mettre fin de façon anticipée. J'ai une dette à payer, ou bien je peux la payer de façon anticipée, je me libère. Ou bien j'attends le temps prévu pour amortir la dette, c'est-à-dire la fin des temps de l'exil, qui ne dépend plus du mérite, mais le temps est arrivé, la septième année s'annonce. Vous vous rappelez ? Il travaillera 6 ans, s'il peut se libérer avant, il se libérera avant. Zahar Achishena. Mais s'il ne peut pas se libérer avant, il travaillera 6 ans, et à la septième année, libéré de force. Il ne veut pas. Alors, esclave perpétuel jusqu'au grand jubilé. Vous vous rappelez de ça ? Eh bien, je crois que c'est cela qui est arrivé. Nous sommes arrivés à la fin des 6000 ans, si on prend cette parallèle. Nous sommes arrivés au rendez-vous du temps, pas au rendez-vous du mérite. Quel est le mérite ? C'est d'être là au rendez-vous. Okay. C'est un mérite colossal. Après tout, on s'en est sorti de ces 6000 ans d'histoire, parce que ça fait depuis le premier homme que ça dure, cette histoire. Bon, je vous fais pas des calculs, hein. Je vous cite le calendrier. Nous sommes à l'année 5730. C'est bientôt Shabbat. On est Erev Shabbat. C'est bientôt. Vous savez, dans une maison juive, on fait Shabbat un petit peu avant. Et alors, là...
Dans une maison, alors.
Voilà dans quel sens, il faut comprendre. Si nous nous basons sur ton exemple. Tu me dis... Oui.
Parce que si l'esclave est seul, il n'y a pas de problème. Mais la question, le problème du judéo quelque chose qu'on posait tout à l'heure, c'est tout ce qui a été acquis pendant ce temps.
Très bien. Alors, qu'est-ce que dit la Torah ? Il ne veut pas être libéré. Pourquoi il dit « J'aime mon maître. J'aime la femme qui m'a donné. » C'est ça, Jacob. Ouais. C'est la même chose. Alors, c'est pas du tout, enfin, ça va dans le sens de ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut bien faire attention à cela. Nous sommes devenus, alors que nous étions en mission, nous sommes devenus des otages. Des otages. Les Juifs dans la Galoute sont en situation d'otage. Et si mission il y a, et vous n'avez aucune idée à quel point il y a un universalisme total dans cette spécificité nationale juive qui s'appelle Israël. Mais Michel me rappelait tout à l'heure, à une autre occasion. Notre spécificité, c'est l'universalisme. Je pense que c'est vrai. Aucune idée à quel point, nous, vous avez idée, à quel point c'est tellement ancré dans l'identité juive que finalement on n'arrive même pas à poser le problème. Parce que c'est tellement paradoxal pour la culture générale. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui disent que leur spécificité, c'est l'universel ? Vous comprenez ce que je dis ? Et l'amour de l'humanité entière qu'il y a dans la loi de Moïse. C'est Moïse qui est universaliste. En tant qu'hébreu. Lorsqu'il a voulu sauver Israël, c'est pour sauver le monde. Il a donné au monde la loi morale à travers le seul véhicule approprié qui était le véhicule du peuple hébreu. Il y a chez le Rav Nachman de Breslav des pages extraordinaires là-dessus. C'est que qui il pose la question.